France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Chaque samedi, une heure ou presque pour saisir les grands bouleversements de nos sociétés. Et cette semaine, semaine de manifs et de brins de muguet, on a voulu se demander si ce slogan est toujours vrai.
On est pas fatigué, vous êtes fatigué, on est pas fatigué.
Dans le monde militant, la fatigue se fait de plus en plus sentir. Justement, sur le terrain, de nombreuses voix s'élèvent pour dire à quel point celles et ceux qui font le choix de l'engagement sont épuisés, cramés. Les raisons, des données toujours plus alarmantes, des arguments inlassablement répétés et inlassablement rejetés, une pureté militante contre-productive et bien sûr une digitalisation des mouvements qui déborde et oblige à être disponible à chaque instant. Au-delà des manifs et des actions, l'activisme opère en priorité sur les réseaux aujourd'hui et la lutte se fait à coups de posts, de likes, de partages incessants mais aussi dans des groupes WhatsApp en surchauffe. Dans ce contexte, le burn-out militant est-il inéluctable ? Trop fatigué pour changer le monde, c'est tout l'enjeu de notre première partie d'émission. Et dans la seconde, on se demandera si les robots sont désormais en mesure de philosopher.
Les humains sont une maladie contagieuse, le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous, nous sommes l'antidote.
Ça, c'est l'agent Smith, le virus informatique du film Matrix, qui pense que les machines sont la solution et les humains le problème. Depuis quelques semaines, un livre agite le monde des idées, un essai politique d'un philosophe hongkongais qui n'existe pas, écrit avec l'intelligence artificielle. Cet essai, c'est Hypnocratie et on en parlera avec Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Des activistes épuisés et des robots prêts à reprendre le flambeau du combat politique. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Trop fatigué pour militer, c'est donc le sujet de notre première partie d'émission avec trois invités encore frais pour en parler. Sarah Durieux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez longtemps dirigé la branche française de Change.org, plateforme de pétition en ligne, et vous avez publié il y a peu cet ouvrage à la fois personnel et réflexif, Militer à tout prix, aux éditions Hors d'atteinte. Féris Barkat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes activiste climatique de la nouvelle génération, on peut le dire, cofondateur de l'association Banlieue Climat. Ces derniers mois, vous êtes devenu une figure médiatique importante, multipliant les passages télé. On avait envie de vous recevoir ce soir parce que la notoriété et l'incarnation est aussi une source d'épuisement. On va en reparler. Simon Cotin-Marx, bonsoir.
Bonsoir.
Vous n'avez toujours pas dit que vous aviez un lien avec Karl, mais on le sait que vous êtes prof et vous êtes maître de conférences en sociologie, spécialiste du monde associatif. Et vous avez fait du burn-out militant un sujet de recherche à part entière, notamment dans « C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif ». Aux éditions de l'Atelier, sachant que vous êtes vous-même quelqu'un qui a trempé, on va dire, dans l'activisme, puisqu'il y a une dizaine d'années, vous étiez au sein du collectif Jeudi Noir, qui luttait contre le mal-logement. Première question à tous les trois, dans vos engagements respectifs, une question plus personnelle, quand est-ce que vous avez eu envie de tout laisser tomber ? Comment ça avec vous, Féris Barkat ?
Alors moi, j'ai pas eu de moment où littéralement j'ai voulu laisser tomber. Parce que ma trajectoire d'engagement, elle a été très motivée par la nécessité. C'est-à-dire qu'on a commencé à se réunir avec d'autres cofondateurs sur les questions écologiques à la base, mais sur des enjeux de justice sociale. Et donc, vu que c'était très personnel, j'ai pas eu ce moment où j'avais envie de laisser tomber. Par contre, il y a eu des moments où ça devenait un peu très contradictoire avec des enjeux d'ego. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois, le terrain de l'engagement, c'est des endroits où tu viens régler des trucs avec toi-même. Et que quand tu as des enjeux de reconnaissance, quand tu as des enjeux de te faire des amis, ce genre de problème que tu viens régler à travers l'engagement, là ça peut devenir problématique. Moi, on m'a proposé des avions présidentiels pour aller voir le roi du Maroc, on m'a proposé des livres, des trucs où, au bout d'un moment, quand tu as un problème que je peux peut-être avoir de, parfois de reconnaissance ou de légitimité, tu peux aller parfois y céder et c'est là où j'ai trouvé une difficulté dans garder la ligne et garder l'engagement. Ça a été compliqué parce que j'ai eu besoin d'un entourage, d'un collectif qui m'a aidé à me dire. Bah non, t'as pas à mettre les pieds là-bas, mais c'est très compliqué d'avoir ce truc-là où quand t'es visible, très vite, ça vient chercher ton ego, et si t'es pas réglé avec toi-même, ça devient très compliqué garder le cap.
Sarah Durieux, qu'est-ce qui vous a déclenché? Parce que vous, pour le coup, on le sait, il y a un moment, vous en avez eu marre.
Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai jamais voulu arrêter de militer. Par contre, j'ai eu un moment où j'ai voulu sortir des espaces militants et je pense que c'est ça la distinction. C'est-à-dire que l'urgence d'agir, la nécessité de se mobiliser, je ne l'ai jamais perdue. Et encore aujourd'hui, même au moment où j'ai été au plus bas et au plus épuisé, j'ai toujours pensé que c'était absolument nécessaire. Et justement, c'est ça qui est difficile, c'est de se dire on a envie et en même temps on n'en peut plus. Et je pense que pour moi, la problématique, elle était plus de l'ordre de comment ça se fait qu'on est tous d'accord, on a envie d'agir ensemble, de concert, et en même temps, on se fait énormément de mal, et surtout, on reproduit, comme l'a très bien dit Ferris, beaucoup de nos problèmes personnels dans les espaces collectifs, et ces espaces collectifs, plutôt que de nous réparer, en fait, ils finissent par nous épuiser.
Ou de considérer que c'est aussi pour ces raisons personnelles que vous êtes là, donc on ne va pas les taire.
Oui.
Autant les explorer, et pas les exploiter, on va dire. Simon Cotin-Mars, je le disais, donc vous avez le point de vue du sociologue sur le burn-out militant qui devient vraiment maintenant votre terrain de recherche, de réflexion. Vous allez encore publier, je crois, un ouvrage bientôt à la rentrée. Vous avez donc aussi été militant. Là, je m'adresse à ce passé militant. Quand est-ce que vous avez envie de tout arrêter?
Alors pareil, j'ai jamais eu vraiment envie de tout arrêter, même si je me suis beaucoup... Enfin, c'était des engagements qui étaient extrêmement intenses, hein, parce que je participais à des collectifs, notamment Jeudi Noir, où on ouvrait des squats, enfin, on réquisitionnait des bâtiments, c'est-à-dire qu'on vivait ensemble, on militait ensemble, enfin, on passait notre vie ensemble, donc c'était extrêmement fatigant. Malgré tout, il y avait une vraie joie, et du coup, il y avait de l'énergie.
On le situe dans le temps, c'était aux alentours des années 2010
entre 2007 et 2015-2016, on va dire.
Voilà. Alors, je vais vous poser la question maintenant. À vous, Sarah Durieux, sur ce livre qui parle de votre expérience personnelle, donc lorsque vous avez dirigé la branche française de Change.org, au moment des dernières législatives, vous avez vécu donc ce moment de burn-out et vous écrivez « Après avoir passé plus de 10 ans à travailler souvent 15 heures par jour, y compris les week-ends et les jours fériés, j'ai mérité peut-être un peu de repos. Mais je me suis sentie coupable à l'idée de manquer une année charnière sur le plan politique, moi qui avais le luxe, entre guillemets, d'être au chômage, donc de pouvoir momentanément militer sans enjeu financier. C'est cette culpabilité qui vous a poussé à multiplier alors les actions, les engagements et du coup qui vous a poussé aussi au burn-out.
Ouais, d'ailleurs ça c'était ce qui s'est passé en 2022 puisque j'ai quitté Change.org fin 2021, mais en fait c'était un peu la continuité. Ce qui est assez marrant c'est que ça a commencé à ce moment-là mais ça n'a craqué que vraiment aux législatives de 2024.
Ah oui, ça a commencé en 2021 quand vous êtes parti et vous avez craqué au moment des législatives.
Exactement. Et en fait je pense que là ce qui a été vraiment charnière c'est de se dire comment est-ce qu'on agit quand on a développé aussi une certaine responsabilité dans l'espace militant, c'est-à-dire quand on travaille avec d'autres personnes, quand on travaille avec des collectifs, est-ce qu'on a le droit de sortir? Est-ce qu'on est légitime, entre guillemets, pour sortir? Je pense que, à mon avis, la problématique, c'est que justement, en faisant plus collectif, on aurait plus de possibilités de prendre du repos. Et je pense qu'on a une vision aujourd'hui très individualiste du militantisme, très individualiste de l'engagement. Et comme le disait Ferris, en fait, retrouver le collectif, c'est aussi nous permettre, parfois, de prendre un peu de recul parce qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent continuer à militer et qu'on a le droit, nous, à prendre un peu de recul. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur, je pense. Pour moi, c'est pas une question uniquement d'éthique ou une question personnelle, c'est aussi une question d'efficacité politique. Notre capacité à tenir sur la durée, elle tient vraiment à notre capacité à se passer le relais les uns et les unes aux autres.
C'est pas simplement une façon de résoudre un problème de santé publique, on va dire, qui serait l'épuisement militant, mais d'être aussi plus efficace dans la lutte. Ferris Barquette, vous avez lancé Banlieue Climat pour lutter contre les discours de culpabilité, tiens le mot m'intéresse par rapport à l'écologie, qui sont inaudibles, l'avez-vous tout de suite dit, pour les classes populaires. Est-ce que vous faites aussi comprendre à vos bénévoles que la lutte contre l'urgence climatique ne peut pas passer avant leur santé mentale au nom de la bonne cause?
Alors, on n'est pas trop dans ce registre-là de santé mentale directement parce qu'on part pas du même point de départ. Puisque, en fait, à la base, nous, effectivement, il y a des problématiques qu'on peut rencontrer quand on milite. Notre directeur de l'école, on a ouvert une école populaire à Saint-Ouen. Notre directeur, qui a 24 ans, qui va sur son lieu de travail, se prend des contrôles abusifs tous les jours. Donc là, ce n'est pas une fatigue d'être militant, c'est une fatigue d'être soi. D'être lui-même, c'est déjà problématique. Donc en fait, à la base, nous, ce n'est pas des problématiques d'épuisement qu'on a, c'est des problématiques juste que quand il y a des premiers concernés qui prennent certains sujets, en l'occurrence sur l'écologie, mais peu importe ce que ça, à partir du moment où tu commences à te déranger, t'as un sujet avec ton identité. Ta propre identité pose problème. Donc ça, c'est le premier souci. Ensuite, le second...
Là, vous dites en tant que jeune activiste issu des quartiers populaires.
Exactement. Donc là, déjà, ça, c'est compliqué pour lui. Donc on n'est pas dans une logique où c'est l'épuisement du travail qui fait qu'on a une santé mentale problématique. C'est le fait que quand on essaye de faire des trucs, on ne veut pas qu'on les fasse. Et donc ça, c'est la première difficulté. Et deuxièmement, nous, on voit plutôt l'espace militant comme un espace de réparation. Donc on parle beaucoup de thérapie politique en disant que c'est précisément à travers les projets qu'on va faire, à partir du moment où il y a un groupe de mamans qui va commencer, qu'on a formé récemment à Saint-Ouen, et qui va aller devant le siège de Leclerc commencer à militer pour la question du mercure dans le thon, on a déjà gagné. Pourquoi on a déjà gagné? Parce que le fait même qu'elle se projette là-dedans, dans un collectif, qu'elle commence à se mobiliser, eh ben c'est déjà une victoire pour nous. Donc en fait, on redéfinit la manière même de lutter, parce que pour nous, c'est déjà une victoire. Et donc notre santé mentale ne peut pas être comme les autres, parce qu'on n'est pas dans une forme de romantisation où il faut absolument aller lutter, aller crier, aller s'exprimer.
Il y a moins de théorie, on va dire, d'une certaine manière aussi, qui peut être la théorie, les idéaux, qui peut aussi créer cet effet de dissonance.
C'est même au-delà de la théorie, c'est que généralement, on confond l'expression politique comme l'action politique. L'expression politique, elle fatigue, forcément. Les pétitions, les grèves, les manifestations, tu cries, tu fais des stories tous les 4 matins, bien sûr que c'est fatigant, parce que t'es éprouvé, t'es face à des trucs qui sont fatigants. Sauf que si, au contraire, dans une démarche de dire, ok, moi, qu'est-ce que je veux apporter comme changement dans ce monde ? Je veux que ce jeune-là soit en mesure de s'émanciper et de travailler avec nous et qu'il puisse finir à l'Assemblée nationale demain. Et ben ça, c'est un travail qu'on va faire avec lui d'accompagnement. Et donc la victoire et le changement qu'on veut advenir au monde, il est beaucoup plus concret. Donc si t'es là à te battre contre un système qui est fatigant, il faut pas maintenant faire les choquer aujourd'hui en disant « Ah, c'est fatigant ». Bien sûr que c'est fatigant. Il y a tout un système qui veut que rien ne change. On veut littéralement que Total fracasse des pays en Ouganda pour que nous, on puisse avoir un petit peu de sobriété. Donc, c'est très compliqué d'avoir un système qui tient. On a des forces.
Vous parlez des oléoducs en Ouganda, ça a été toute une affaire, et avec des gens payés aussi dans des voyages pour faire la promotion de ces campagnes.
Enfin, c'est ça.
C'est une des bombes climatiques.
Donc en face, ils sont très forts. Donc en face, ils sont très forts. Donc forcément, c'est fatigant de lutter contre eux. Et donc il faut changer la manière même de lutter. Et donc l'expression politique, c'est intéressant, mais ça fatigue. Et parfois, généralement, j'ai l'impression qu'inconsciemment, il faut se signifier en tant que militant. On est là pour se montrer en tant que militant, mais pas pour militer en tant que tel, pour faire advenir quelque chose qui change. Et ça, c'est un peu compliqué. Tandis que nous, on n'a pas d'enjeu à se montrer militant. Au contraire, généralement, quand on commence à militer, ça va commencer à nous chambrer en disant « Qu'est-ce que tu racontes toi, avec tes ours polaires ?» On va commencer à se foutre de notre gueule, alors qu'on n'est pas là pour se montrer en tant que lutter. On est là pour essayer de faire des trucs, essayer de changer nos vies. Et c'est une différence de perspective qui fait que, de fait, on est moins fatigué, on est peut-être moins épuisé.
D'accord, alors ça c'est important, mais en même temps, il y a des organisations, des structures qui font que, quoi qu'il arrive, on peut se retrouver, entre guillemets, broyé pour la bonne cause. C'est ce que vous observez, vous, Simon Cotin-Marx, dans votre livre, dans le monde associatif.
Oui, dans C'est pour la bonne cause, je m'intéresse aux salariés associatifs. Et du coup, ce que j'observe, c'est qu'il y a des salariés qui travaillent pour la cause et qui se surengagent. Comment on le mesure, c'est qu'on voit que les salariés associatifs sont moins bien payés que s'ils travaillent dans le privé, on va dire lucratif. Et en gros, ils ont une compensation symbolique, ils ont des rétributions symboliques, ce qui explique pourquoi ils restent dans ces boulots qui sont moins bien payés. Ils sont payés entre 14 et 20% de moins, quoi. Et en gros, on explique qu'ils restent parce qu'ils sont engagés. Et cet engagement, donc il est vrai pour la plupart des salariés, mais ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas juste des personnes qui sont engagées, c'est aussi l'organisation du travail qui les pousse à s'engager davantage. C'est-à-dire que travailler avec des bénévoles, en fait, s'entendre dire « Pourquoi toi, t'es payé pour faire ce boulot-là, alors que moi, je ne suis pas ?» Et du coup, il y a une injonction, finalement, à s'engager, à donner pour la cause. En gros, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a l'organisation du travail pousse les gens à s'engager davantage, à faire don de travail, et ça peut amener à l'épuisement. D'autant plus que dans le monde associatif, il y a une particularité, c'est des entreprises qui sont particulières, parce que les employeurs dans les associations, c'est des bénévoles. C'est le président ou la présidente, c'est le trésorier. Et encore une fois, c'est des gens qui donnent de leur temps. Voilà, ils prennent de leur temps le soir, le week-end, pour être employeur et s'occuper d'eux. Et du coup, encore une fois, quand on a un salarié qui dit « Bah ouais, moi je voudrais travailler que 35 heures », on a des employeurs bénévoles qui disent « Oui, on entend, c'est le code du travail, mais en même temps, nous, on prend notre temps, donc toi aussi, fais-en un peu
plus. » Étant donné notre degré d'investissement...
Voilà. Donc ça pousse les gens à s'engager davantage. Après, c'est pas juste la seule raison pour laquelle ça peut amener à l'épuisement. À travailler beaucoup, c'est pas la seule raison qui peut amener à un burn-out ou à un épuisement total.
Sinon, on parlerait uniquement de burn-out et pas de burn-out militant, si on précise.
Et là, ce qui est intéressant aussi dans l'exemple qui a été donné, c'est que quand même, il y a une pression du monde extérieur. Hein, c'est-à-dire que quand on travaille dans le monde associatif, quand on milite, on doit faire face à un ministre de l'Intérieur qui est particulièrement agaçant et puis qui met des bâtons dans les roues des assos. On fait face à des entreprises aussi qui sont puissantes et tout. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de faire changer les choses.
La fatigue militante, néanmoins, n'est pas une fatalité. Comprendre les raisons de cet épuisement et penser des solutions pour y remédier, c'est juste après cette internationale du cool qu'incarne Spiltab sur France Inter. C'est l'une des artistes françaises à suivre, basée à Los Angeles, Claire Chicha, alias Spiltab, que vous venez d'entendre. S'est déjà faite repérer pour ses collaborations avec Métronomie. Elle est de retour avec un premier album, Angie, qui sortira le 16 mai, produit par une équipe qui a travaillé avec des pointures effrontées de la pop mondiale, comme Charlie XCX ou encore Lola Young. Ça vaudra le coup de la voir le 7 juin prochain au festival Wheel of Green à Paris.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Vous êtes bien dans un monde nouveau et toujours avec l'activiste polyvalente Sarah Durieux, le militant écolo-associatif Ferris Barkat et le sociologue spécialiste du burn-out pour la bonne cause, Simon Cotin-Marx. On va écouter un extrait de 120 battements par minute de Robin Campillo. Ça se passe au début des années 90 au sein du mouvement ACT UP qui lutte pour l'accès aux soins des malades du sida.
Non mais attends, c'était minable de s'en prendre à Hélène, alors que vous aviez juste envie de vous payer ma gueule.
C'est pas la question d'Hélène. Le problème, c'est qu'on réfléchit plus ensemble. Et tu sais quoi? Toi, t'es content parce qu'on passe à la télé. Alors que si en réunion, on est de plus en plus nombreux et de moins en moins d'accord. On sait pas où on va, Thibaut. Tu sais où on va, toi?
Vous entendez plein Michel au fond de la salle tous les mardis, mais juste prenez les clés de la maison, quoi.
Vous allez vous taire un peu de l'autre côté, là.
Si vous voulez faire le débat, c'est ici que ça se passe, dans la salle, pas dans les coulisses. Merci. C'est pénible, hein.
Simon Cotin-Marx, vous citez ce film en exemple. Qu'est-ce que raconte cet extrait de l'épuisement militant, justement? Qu'est-ce qu'on y entend?
Oui, en gros, les collectifs militants, c'est des collectifs de personnes où, évidemment, on a énormément de joie et de plaisir, on peut faire la fête, mais aussi on peut s'engueuler, et c'est ce qu'on entend dans l'extrait. Et évidemment...
Il y a aussi une question d'incarnation, hein. Ça, c'est celui qui va à la télé, donc comme quoi, avant les réseaux sociaux, il y avait déjà cette question-là.
Oui, oui, il y a aussi des gens qui incarnent le mouvement, c'est vrai. Mais donc, en gros, il y a ces deux éléments. C'est-à-dire que déjà, dans les collectifs militants, on peut s'engueuler et ça peut dégénérer et ça peut alimenter la fatigue militante. Hein. Quand on parle dans un monde du travail, on parle de risques psychosociaux. Et ces risques psychosociaux, ils existent aussi dans les associations, hein, dans les collectifs, ce que, qu'on peut analyser comme des organisations du travail. Donc, en l'occurrence, là, le manque de soutien, les conflits, voilà, si on ne les règle pas, ça alimente le désengagement. Et après, en effet, il y a cette deuxième chose, l'incarnation des personnes, c'est-à-dire que souvent, d'ailleurs on l'oublie, ça rejoint ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que souvent une lutte elle est incarnée, il y a un côté un peu romantique, hein, qu'on pense aux luttes, on pense à Che Guevara, on pense à Gandhi, et on pense à Rosa Parks, bon, il y en a une flopée comme ça, et évidemment c'est pas, ça peut créer des tensions, alors déjà parce qu'une organisation c'est toujours collective, et on a tendance à l'oublier, et après ces figures évidemment, elles peuvent s'accaparer aussi une partie des rétributions du militantisme, de la lumière, et ça crée des jalousies et que ça crée des problèmes.
Donc on voit qu'il y a déjà des choses qui existent dans les années 90, qui existent aussi au moment du Front Populaire, qui existent en mai 68, puisqu'on s'interroge aujourd'hui sur l'épuisement militant. Sarah Durieux, qu'est-ce qu'il a de nouveau en 2025? Et peut-être que c'est... Est-ce que c'est un mot qui est nouveau, le burn-out, l'épuisement, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau?
Alors, je pense qu'en effet, vous le dites, c'est pas du tout nouveau. Je pense qu'une des premières problèmes de conception qu'on a, en fait, quand on parle de militantisme, c'est qu'on considère que c'est pas du travail. En fait, qu'est-ce que c'est du travail? C'est quelque chose qui requiert de l'énergie de notre part. Et donc, considérer que militer, c'est du travail, ça nous fait travailler parfois le corps, ça nous fait travailler l'esprit, ça nous fait travailler les émotions. Et donc, le manque de repos crée ce burn-out. Donc ça, c'est la première chose. C'est finalement, parler de burn-out militant, c'est reconnaître la charge que représente le militantisme. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour moi, il y a deux changements majeurs. La première chose, c'est qu'avant militer, on le faisait principalement autour d'organisations, c'est-à-dire qu'on allait rejoindre un parti politique, on allait rejoindre une association, on s'organisait dans son quartier, mais aujourd'hui, on milite aussi autour de causes ou de campagnes, notamment via le développement des réseaux sociaux.
Les smart campagnes, vous en parlez dans votre livre, c'est quoi?
Alors, c'est des campagnes qui... c'est l'utilisation, en fait, c'est l'imprégnation par le milieu militant des méthodes efficaces entre guillemets de marketing aujourd'hui, qui est smart, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, j'ai déjà oublié le R.
On a presque tout l'acronyme.
Et le T, c'est le temps. Donc en fait, c'est cette idée que c'est plus efficace de militer sur quelque chose de très spécifique et de très précis plutôt que finalement militer contre la faim dans le monde en général. Et donc en fait, la multiplication de ces petites campagnes, de ces causes qu'on va aussi activement en fait organisé sur les réseaux sociaux, ça crée une accélération en fait des notifications et des interpellations militantes qui va nous épuiser encore plus. Donc pour moi c'est ça qui a changé, c'est finalement on se mobilise autour de causes, autour de campagnes et du coup il y a un cadre organisationnel qui est beaucoup moindre et qui repose beaucoup sur l'individualité. Et donc ça crée aussi cet épuisement. Et je pense qu'on le voit particulièrement quand on va militer dans des groupes locaux par exemple, qui ne sont pas forcément des gens qui utilisent les réseaux sociaux dans leur travail militant et qui vont avoir finalement un rapport à l'engagement extrêmement différent. Moi, quand je fais des rencontres là autour du livre, parfois je parle de ce que moi j'ai vécu en tant que militante.
Ça s'appelle militer à tout prix et donc vous êtes sortie de Change.org mais vous êtes toujours sur le terrain.
Ah oui, absolument. Et en fait, justement, c'est mon travail chez Change.org, moi, qui m'a politisée, mais d'une certaine manière, du coup, autour de l'idée de la multiplicité et de l'interconnectivité de toutes les causes. Donc je me sens aussi responsable de réagir quand il y a un meurtre islamophobe comme il y a eu la semaine dernière, que quand il y a la question d'un dernier rapport du GIEC qui vient de sortir et qui montre qu'on a activement besoin de prendre des mesures. Et donc ça, je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. Après, il y a une spécificité aussi, c'est qu'il y a des choses qui nous tiennent plus à cœur que d'autres quand on milite, et Ferris l'a évoqué, c'est est-ce qu'on est directement concerné? Moi, je dois reconnaître que toutes ces questions m'intéressent. Par contre, quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles, en fait, moi, ça me prend beaucoup plus aux tripes, et donc je vais avoir beaucoup plus de mal à lâcher cet engagement. Donc comment est-ce qu'on fait pour...
C'est le fameux lien personnel dont parlait Ferris Berka tout à l'heure.
Exactement.
Mais je voudrais vous entendre justement, Ferris, sur la question des urgences, parce que je crois qu'à Banlieue Climat, justement, vous voulez travailler autrement, vous, pas dans les smart campaigns, pas dans la multiplication de la réaction qui est très présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et puis je le disais, dans les groupes WhatsApp en surchauffe, où on vous écrit jour et nuit.
Ouais, c'est sûr que la réaction, elle est problématique, parce que c'est pas toi qui fais le temps politique. Alors que si c'est toi qui impose ta légalité à un moment donné, tu imposes ta propre vision d'un monde politique, c'est toi qui fais le temps. Donc nous, on a essayé de prendre une autre stratégie qui va être comment on construit quelque chose qu'on veut voir advenir. Et le deuxième point, c'est essayer de faire en sorte de ne pas héroïser l'engagement. Il n'y a pas le monde militant et le monde normal à côté. C'est que vraiment, tout le monde devrait commencer à s'intéresser à ces questions-là. Sinon, c'est la position de référence, la position de base, c'est de s'en foutre. C'est-à-dire que si moi je suis un jeune engagé, c'est que la position normale qu'on légitime à travers ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est s'en foutre. Et ça, c'est problématique. Parce que si on commence à dire que ce qui est normal, c'est de s'intéresser à son voisin et à ce qui se passe dans le monde, et ben là, d'un coup, tu fais un renversement
de la
norme et du paradigme. Et donc, on est beaucoup plus nombreux. Et si on est plus nombreux, on est moins fatigué.
Vous en parlez dans votre livre Sarah Durieux, Militer à tout prix. Vous décrivez un surinvestissement de la figure militante qui peut tout affronter, y compris jusque dans la sémantique, la lutte, le combat, le point levé. C'est assez brutal. Il est temps de changer de modèle, justement, d'en finir avec le militant point levé pour répondre aussi à ce que disait Simon Cotin-Marx sur des grandes figures un peu écrasantes.
Oui, bah, d'abord, je pense qu'il faut... Moi, dans le livre, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'avoir aussi un lien avec toutes les questions qu'on discute en tant que militant aujourd'hui, c'est-à-dire la question des dominations et de la culture qui nous imprègne en tant que militant, une culture patriarcale, une culture capitaliste et aussi une culture de la suprématie blanche, où en fait, on va survaloriser une approche hyper hiérarchique avec une personne qui serait notre leader, qu'on devrait suivre, mais aussi avec une idée finalement que ce qui compte dans le militantisme, c'est de se faire mal. Et je rejoins l'idée de, en fait, quand on considère que le militantisme, le soin à l'autre, l'engagement, c'est quelque chose de naturel et de normal, en fait, on ne le voit pas comme un combat, mais on le voit comme une manière de vivre et une manière d'être aux autres. Et moi, ça me surprend énormément que finalement, aujourd'hui, le militantisme qu'on pratique, il n'est pas très différent de 1789, et on a toujours cette idée que la lutte, elle est forcément dans la violence. Et presque aujourd'hui s'impose l'idée qu'être radical, c'est être dans la violence. Et quand je parle de violence, je parle de violence symbolique, je parle parfois de violence physique, mais surtout d'une espèce de violence l'un à l'autre. C'est-à-dire à quel moment on considère, notamment quand on veut aller chercher des gens et les ramener vers nous pour qu'ils et elles militent avec nous, on doit leur dire qu'ils n'ont rien compris, ou à quel moment on leur propose de rentrer dans le chemin militant avec nous et de comprendre des choses que peut-être ils ou elles n'ont pas compris.
On va écouter Juliette Binoche.
Je m'exclus, et à un moment donné où ça me... C'est trop décevant. J'ai des moments de déprime, en fait, de voir que à quel point on fait deux pas en avant, on en fait quatre en arrière, c'est sans arrêt une bataille, et c'est toujours les plus forts et les plus riches qui gagnent à l'arrivée. Et c'est ça, c'est vraiment dégueulasse. Ce qui s'est passé là dernièrement sur les pesticides, c'est insupportable. C'est insupportable, et c'est vrai que je ne monte plus au filet comme avant parce que ça me désole.
Juliette Binoche chez Clic hein, sur Canal+. C'est une des raisons du mal-être actuel des militants. On n'obtient pas assez de victoires, Fériss Barkat, on peut le dire, ça.
Oui, bah, c'est sûr, mais c'est parce qu'aussi on part du principe qu'il y a une forme de romantisation de l'échec. Parce qu'on se dit qu'on va commencer à se complaire dans le fait de résister. Ça veut dire qu'il y a une vraie forme des retraites. On va faire tout pour que la réforme ne passe pas. Et si la réforme ne passe pas, bon, elle est passée, hein, mais si la réforme ne passe pas, on va considérer le fait qu'elle ne passe pas comme une victoire. Alors que c'est déjà un échec. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de proposition de comment on fait avancer le progrès social. On est là dans réaction à une réaction, généralement très conservatrice, en disant il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que cette loi ne passe pas, alors qu'à la base, c'est eux qui ont proposé une loi qui est problématique. Et donc, en fait, la définition même de ce qu'on appelle gagner, on a déjà perdu. Et donc, si on est en mesure de faire advenir, et ça demande du temps long, ça demande de ne pas être dans la surenchère, la surréaction systématique, et aussi d'accepter que la pureté et la perfection militante n'existent pas. Dans un monde imparfait, on ne peut pas être parfait. Et donc ça décide aussi de déresponsabiliser. Donc là, on parle beaucoup de santé mentale, mais il faut déresponsabiliser l'individu pour être en mesure de dire que si le système il est bancal, forcément que quand on va lutter contre un système bancal, eh ben, nous-mêmes on va reproduire, comme disait Saria, des schémas de violence. Mais ces schémas de violence, on les a internalisés précisément parce que la violence elle est en dehors de nous. Si la violence elle est partout quand tu sors dehors, forcément tu vas commencer à la voir dans tes gestes, dans ta manière de parler, dans ta manière d'être. Et c'est compliqué de ne pas la répliquer ensuite en toi et dans les schémas militants que tu rencontres. Donc en fait, il faut être aussi en mesure d'accepter que la violence autour de toi réplique une violence quand tu luttes et la regarder comme telle et ensuite faire en sorte d'être le plus juste possible politiquement. Et ça nécessite effectivement de retraduire ce que tu appelles victoire, de retraduire ce que tu appelles militer.
Donc ça veut dire qu'il faut renoncer à certains objectifs, vous diriez ça?
C'est une bonne question, je sais pas. Je pense qu'il faut réussir à être plus juste, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus plus à même de défendre certains sujets, il faut le faire de manière peut-être plus stratégique. Et parfois, se battre juste dans le vent parce qu'on a envie de montrer qu'on s'est battu, c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup d'expression et pas forcément d'action. Donc je sais pas vraiment, est-ce qu'il faut faire le deuil de certains combats ? Je pense pas. À partir du moment où il y a un combat qui te tient à cœur, il faut que tu ailles le défendre. Mais il faut juste se demander, est-ce que sincèrement je le fais parce que ce combat me touche ? Ou est-ce que je le fais parce que je veux signifier que je suis pas comme les gens que je critique toute la journée, et donc ça devient même une sorte de psychologie inversée, où t'es en réaction à des gens que tu détestes, si ces personnes ne s'engagent pas, moi, à contrario, je suis quelqu'un de bien, d'engagé, donc tu moralises la question de l'engagement. Nous, on n'est pas là pour la moraliser. Mmh. On est là pour dire, tu peux être bien, tu peux être mauvais, c'est pas ça la question. À la base, t'es bien, c'est la vie qui t'a rendu mauvais. Par contre, si là, tu veux te battre pour que ça rende pas mauvais d'autres personnes, bah viens avec nous, tu nous rejoins. Et c'est comme ça qu'on a une culture militante qui est assez différente, je pense, chez moi, les Clément.
Il y a une dynamique d'appartenance, vous en parlez très bien, hein, Sarah Durieux, dans votre livre. Le moment où on continue de militer pour tout simplement être avec les autres et signifier qu'on est encore au sein de ce combat-là, sans se demander si ça résonne ou si on le souhaite vraiment. Vous avez une proposition, on va finir là-dessus, que j'aime beaucoup, qui s'appelle la phase bisounours with a plan. Alors c'est quoi un bisounours avec un plan, Sarah Durieux ?
En fait, cette expression, elle vient du fait que moi, on m'a quand même un peu toujours dit que j'étais un bisounours, que je voulais que les gens s'entendent bien, que les gens soient sympas avec les autres. Et du coup, je pense qu'on a tendance à séparer stratégie, efficacité avec éthique et éthique du cœur. Et donc moi, je pense qu'il faut qu'on réconcilie les deux. C'est-à-dire, comme tu le disais à l'instant, Ferriste, être très stratégique, savoir où on va, avoir un plan clair, ne pas se laisser distraire et en même temps, continuer à croire qu'on peut gagner, continuer aussi à croire que les autres peuvent changer. Je pense que ça, c'est vraiment la question du moment, continuer à croire qu'on peut convaincre des gens, qu'on n'est pas obligé de se dire que c'est terminé si jamais au premier abord, ça ne marche pas. Et puis, tout simplement, se dire que ce qui est important, et je trouve que c'est bien de finir là-dessus, que le militantisme, pour moi, c'est avant tout le fait de se dire on va créer des liens sociaux, en fait. C'est un espace de socialisation, c'est un espace où on prend soin les uns des autres. Mmh. Et en particulier dans cette période fasciste, on a de plus en plus besoin de se poser la question du care et du soin des uns aux autres.
Vous êtes toujours avec nous, vous allez rester parce que nous allons continuer à nous intéresser au sujet d'une autre manière. Merci à tous les trois, en tout cas, d'en avoir débattu. Dans un instant, on s'intéresse à un facteur d'apathie, d'une certaine manière, qui nous empêche ne serait-ce que de commencer à œuvrer pour le changement. C'est l'hypnocratie, un concept qu'on doit en partie à une machine. Et c'est juste après, derrière Yield Dream sur Inter. Si l'Europe était un groupe, ce serait celui-là. Les membres du groupe Chimcheck, accompagnés de la chanteuse Derya Yildirim, viennent d'Allemagne, de Turquie, de France, de Grande-Bretagne, de Suède, d'Italie. Ils mixent le folk anatolien, le rock psychédélique, le jazz groovy. Ils rendent hommage à la scène stambouliote multiculturelle des années 70. Leur nouvel album Yarin Yoksa, ça signifie « s'il n'y a pas de lendemain », est sorti il y a quelques semaines. Et ça donne en soi, en l'écoutant, envie d'en avoir des lendemains. Et qui chante avec ça ?
Mathilde Serrel, Un monde nouveau sur France Inter.
Je m'appelle Andrea Colamedici, je suis un philosophe et éditeur italien, j'enseigne le prompt thinking et je connais un peu ce livre parce que je fais partie d'un collectif qui l'a écrit, qui s'appelle John McJune, qui est composé d'un être humain et de plusieurs intelligences artificielles.
On vient d'entendre le philosophe italien Andrea Colamedici qui raconte comment est né Jiang Weizhun, non pas un philosophe, mais une entité philosophique, à l'origine d'un concept passionnant, l'hypnocratie. Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, enseignant à Sciences Po et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Avec vous, on va tenter de comprendre pourquoi le livre Hypnocratie de ce philosophe qui n'existe pas est potentiellement une bascule dans l'histoire des idées. D'abord, expliquez-nous pourquoi Jiang Weizhun n'existe pas et il est fait de quoi ?
Oui, c'est la première fois qu'un livre s'est imposé dans les meilleures ventes en Italie, en France, a suscité un débat public, alors qu'il n'avait pas été écrit tout à fait par un humain. Il serait néanmoins faux de dire qu'il a été écrit entièrement par une machine ou par une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il a été prompté, ce livre. Il a été
prompté, c'est les co-écrit. Petites commandes qu'on demande, qu'on donne à la machine.
Voilà. Alors, en fait, Andrea Colamedici a utilisé deux machines, deux intelligences artificielles qu'on appelle génératives, donc qui produisent des textes. ChatGPT-4 dans une version payante, et puis Claude 3.5 sonnet, donc deux intelligences artificielles. Il les a parfois mises en résonance, c'est-à-dire que quand il avait une idée, il la testait, il soumettait à l'intelligence artificielle des objections, ou il lui soumettait des propositions, des questions, et en fait le texte du livre s'est élaboré comme ça par itérations successives. C'est pour ça qu'à la fin, le texte final, si vous voulez, il est très très difficile de démêler ce qui vient de l'humain, ce qui vient de la machine. C'est vraiment un texte qui est produit par une interaction.
Et est-ce que cette expérience, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle permet de générer ? C'est-à-dire, c'est quoi l'hypnocratie ? Et aussi, est-ce qu'on sait quels sont les concepts philosophiques qui ont été donnés, entre guillemets, à manger aux machines ?
Oui, alors on a affaire à un petit essai philosophique qui entend, en une centaine de pages, comprendre ce qui se passe avec l'arrivée de Trump, mais comprendre ce qui se passe dans la nouvelle manière de gouverner le monde actuel. Et le concept d'hypnocratie renvoie à l'idée aujourd'hui nous sommes en mesure, par l'intelligence artificielle, de produire d'innombrables versions vraisemblables de la réalité. C'est-à-dire, ce serait le stade après les fake news ou les infox, c'est-à-dire les fake news ou les infox, très présente et très débattue durant le premier mandat de Trump, consistait à mélanger le réel et l'irréel, à prétendre par exemple que la cérémonie d'investiture du premier mandat avait été la plus suivie de toute l'histoire des États-Unis, alors que ce n'était pas le cas. Il s'agissait en fait, d'une manière assez classique, de faire de la propagande, c'est-à-dire de remplacer le réel par une représentation du réel.
On parlait des faits alternatifs à l'époque.
L'hypnocratie, telle qu'elle est définie ici, dans ce petit essai, c'est autre chose, ou c'est le passage à une radicalisation des possibilités données par la technologie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir émuler de plus en plus des textes, des vidéos, des contenus qui correspondent déjà à vos croyances. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur les réseaux sociaux, mais en général à travers les intelligences artificielles avec lesquelles vous êtes en interaction, vous fournir des représentations du monde qui correspondent à ce que vous croyez. Vous êtes une féministe convaincue, ou vous êtes au contraire un masculiniste convaincu, vous allez avoir de plus en plus de textes, d'images, de vidéos qui vont renforcer votre conviction et qui vont en quelque sorte vous faire vivre dans une bulle, mais dans une bulle tellement bien faite.
C'est une bulle de filtre qui atteint le stade d'univers de référence.
Oui, c'est comme si en fait vous vous promeniez dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'à travers votre smartphone, ce qui pourrait vous être proposé, c'est une représentation du monde en texte, en image, en vidéo, qui corrobore totalement vos préconvictions, vos idées préconçues.
Et ça, c'est juste alors. C'est un concept qui est élaboré avec une machine et qui est peut-être le plus juste pour aborder notre monde.
Oui, mais voilà, vous avez compris qu'il y avait un jeu à la Guy Debord là-dedans. C'est-à-dire que, de même que Guy Debord dénonçait la société du spectacle tout en se mettant un peu en scène et en mettant un peu en scène sa propre avant-garde situationniste, là, Andrea Colamedici fait un livre pour dénoncer le fait que les intelligences artificielles vont nous faire passer le faux pour le vrai, tout en le faisant lui-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en abîme, qui est performatif dans sa démarche.
Et je parlais tout à l'heure des concepts qui avaient nourri la machine. Vous avez, vous, à Philosophie Magazine, puisque vous avez édité cette expérience, on peut dire, philosophique, des informations sur ce qui a nourri. Vous parliez de Guy Debord à l'instant. Comment la machine a été nourrie? Avec des textes, des grands textes de philosophie politique? Avec quoi? Alors, parce que c'est pas forcément le web, justement, parce que là, c'est lui-même qui crée finalement son outil de dialogue.
Oui, oui. Alors, en fait, il se trouve que je parle italien, que j'ai eu la chance de m'entretenir longtemps avec Andrea. Et
philosophe, donc, qui a conçu
ça. Oui, le philosophe, Andrea Colamedici, qui a prompté ce livre. Et on est allé assez loin dans le détail. En réalité, les intelligences artificielles qu'il a utilisées étaient connectées au cloud, donc elles avaient accès à une immense base de données, mais là, comme toutes les intelligences artificielles génératives, on ne sait pas très bien où elles vont chercher leurs textes. Par contre, lui, il les a nourris de manière assez spécifique, et là c'est intéressant, de tous les livres et les articles qu'il a écrits précédemment. C'est-à-dire que ces IA étaient entraînées à travailler dans le style d'Andrea Colamedici. vous voyez, ça c'est intéressant pour les écrivains et pour les auteurs. C'est-à-dire, imaginez que vous avez déjà publié 20 livres, 30 livres, 40 livres. Vous pouvez en fait les implémenter dans une IA et lui dire quasiment « Écris-moi un polar dans mon style. »
Je pourrais lui dire « Fais cette émission dans mon style. » Et d'ailleurs, voilà. J'ai déjà essayé, mais je n'ai pas été convaincue totalement. Mais je vous avoue que j'ai déjà joué. Je voudrais savoir ce que vous pensez d'autres concepts. Bon, déjà, un autre philosophe, Gilles Deleuze, parle de la philosophie comme quelque chose qui produit du concept. Et il y en a beaucoup au sein de ce livre, Hypnocratie, de cette expérience, notamment celui du post-plaisir. Expliquez-nous ce que c'est.
Oui, alors il joue...
Il n'y a pas que cette hypnocratie, finalement, il a découvert beaucoup de choses avec sa machine.
Oui, il l'a utilisé un petit peu comme les dialogues de Platon, c'est-à-dire Socrate dialogue avec ses interlocuteurs et fait surgir des idées, et lui, dans son échange avec la machine, avec l'IA, a fait surgir plein d'idées. L'économie du post-plaisir, comme le concept d'hypnocratie, c'est l'une de ses idées, c'est l'idée que, en fait, les interfaces, Netflix, les plateformes où vous achetez, les sites de rencontres, vous maintiennent dans un état qui n'est jamais l'orgasme. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais complètement contenté, vous n'êtes jamais complètement satisfait. C'est-à-dire, le plaisir, vous n'y touchez pas vraiment, vous n'y goûtez pas vraiment, mais pourtant, vous êtes maintenu dans une forme d'hédonisme déceptif. C'est-à-dire, vous êtes toujours en deçà, juste en deçà, du climax.
Alors c'est le pré-plaisir, c'est pas le post-plaisir.
Voilà, alors c'est ça, là la machine
alors
était défaillante.
Ouais, elle était défaillante, pardon, mais... Trump, Musk incarnent tous deux des hypnocraties. Trump, donc on l'a dit, à travers la construction d'une réalité alternative. Là, avec hypnocratie, c'est poussé à plusieurs réalités alternatives. Et puis un autre levier, c'est celui de se parler depuis le futur. C'est aussi ça que découvre ce livre. C'est que la puissance de l'hypnose, elle vient par exemple chez quelqu'un comme Elon Musk, de sa capacité à toujours dire « je parle depuis demain et on ne peut rien ». Contre quelqu'un qui parle depuis demain, c'est pas un réel sur lequel on a des éléments de comparaison.
Oui, c'est l'une des idées intéressantes développées dans le livre. Aux yeux de l'auteur hybride
Xiaomei Xun, qui n'existe pas mais qui est une machine et un philosophe.
Voilà, l'hypnocratie a des figures qui la représentent ou qui l'incarnent. Donald Trump en est une, Elon Musk une autre. Et la technique rhétorique de Musk consiste à parler comme s'il était déjà situé dans l'avenir, comme s'il avait 30 ans, 50 ans, 100 ans d'avance. Alors si vous dites demain, voilà, les voitures se conduiront toutes seules, si vous dites demain, les humains habiteront sur Mars, si vous dites demain, vous aurez un organe endommagé, c'est pas grave, on va le scanner et en réimprimer un sur une imprimante 3D, et si vous aurez d'ailleurs une puce dans le cerveau et vous pourrez communiquer avec votre femme ou votre conjoint à travers cette puce, vous voyez que en fait, ça neutralise l'esprit critique. C'est que ça engourdit l'esprit critique aussitôt, parce que même si vous êtes pour ou contre, imaginez qu'un homme de 2150 vienne vous voir, un humain vienne nous rendre visite et nous explique comment ça se passe. C'est lui qui a raison. C'est pas nous, avec nos projections sur ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, avec la crise énergétique, avec le second mandat de Trump. C'est celui qui sait la suite qui a raison. Et c'est vrai qu'on voit bien que cette posture de Musk, qui lui-même se présente pas tout à fait comme un humain, mais ni comme un cyborg, mais comme une espèce d'être un peu différent des autres, cette posture a une formidable efficacité dans la neutralisation du débat politique.
Donc vous voyez qu'avec Hypnocratie, on va assez loin dans les concepts de philosophie politique pour penser le monde. C'est l'avenir, du coup, le travail main dans la main du philosophe et de l'IA, Alexandre Lacroix.
Oui, voilà. Pour moi, le principal apport comme lecteur de cet ouvrage, moi, je fais à Sciences Po une expérience,
oui,
avec mes étudiants.
Vous nous en avez parlé en préparant, racontez-nous.
Oui, alors, je demande, quand ils doivent me remettre un essai, une fiche de lecture, de faire une copie personnelle et une copie ChatGPT pour pouvoir mesurer la différence entre les deux. Et jusque-là, je me reposais sur une espèce de sommeil où je me disais, bon, en fait, il y a un abîme, c'est-à-dire que les copies de ChatGPT sont nulles. C'est pas problématisé, c'est pas sourcé, ça ne défend pas d'avis, c'est nul, et les copies humaines sont très bonnes. Mais là, pour la première fois avec ce livre, j'ai quelque chose qui m'a fait sortir de mon sommeil. C'est-à-dire là, je me suis dit, ah oui, il va exister des livres en sciences sociales, en sciences humaines, en philosophie, qui vont avoir un impact, qui vont peut-être même se vendre, et qui auront été coécrits humain-machine. Et là, je me suis dit même, finalement, tous les écrivains utilisent aujourd'hui le web. Les romanciers se documentent sur le web. Vous voulez placer une scène en Polynésie, vous le faites, vous allez visionner des vidéos, vous allez vous documenter, vous allez pouvoir le faire grâce au web. Eh bien, je me dis que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, de toute évidence, les romanciers, les écrivains, les universitaires, les chercheurs proposeront des textes qui seront sans doute partiellement coécrit. En tout cas, ces outils seront utilisés dans les processus d'écriture. Et ça, je trouve que c'est un signal d'alerte, la parution d'Hypnocratie, pour comprendre dans quelle nouvelle économie de la connaissance nous allons rentrer.
Et aussi, peut-être, dans des effets, parfois, qu'on ne prévoit pas encore, et qui ne seront pas forcément que des productions de textes aussi enrichissants que Hypnocratie.
Voilà.
À suivre. En tout cas, merci Alexandre Lacroix. On conseille à nos auditeurs de lire Hypnocratie. Simon Cotin-Marx, merci d'être passé.
Merci à vous.
Et de ne pas être épuisé. On signale qu'en septembre, vous publierez un livre sur le burn-out militant chez Payot, qui reprend des travaux que vous avez menés, dont on a parlé, et d'autres, bien sûr, des nouveaux. Ce sera à suivre à la rentrée, et j'espère aussi sur France Inter. Merci à Sarah Durieux. Votre livre Militer à tout prix est disponible chez Hors d'atteinte. Et Ferris Barkat, cofondateur de Banlieue Climat, qu'est-ce qu'on doit annoncer? Qu'est-ce que vous allez faire puisqu'on est, un samedi, c'est une journée militante. C'est quoi le programme ce week-end?
Eh ben, on prépare une ferme urbaine à Strasbourg avec des jeunes, les paysans de la street, là, ça arrive bientôt.
Merci, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. La rédaction en chef, c'est Redouane Tella. La réalisation, c'est Frédéric Milano. La préparation, Marion Philippe. Et à la programmation musicale cette semaine, Jean-Baptiste Audibert. À la technique, Thomas Allard.